prédication fait suite à celle de dimanche dernier. Alors, qui se souvient de la prédication de dimanche dernier ?
Jeu d'échecs.
Ah oui, effectivement, il y avait l'image du jeu d'échecs et maintenant ?
Le royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu, tout à fait. Le royaume de Dieu et la bataille spirituelle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous aimez les histoires ?
Non !
Non ? Bon, ceux qui n'aiment pas les histoires, vous pouvez sortir maintenant, vous reviendrez dans 5 minutes.
Ça s'entend rien.
Alors, qui aime les histoires de science-fiction ? Qui ne connaît pas la science-fiction ?
Moi.
Ouais ? Très bien. Si je te dis Star Wars, ça te parle ?
Non.
Si je te dis Star Trek, ça te parle ? Bon, bah ton cas est désespéré. Alors, la science-fiction, ce sont des histoires qui se passent dans un futur que l'on imagine. Ça peut être un futur plus ou moins lointain. Ça part d'une hypothèse de ce que pourrait devenir notre monde, voire l'univers, dans 10, 20, 100, 1000, 10 milliards, quelques années encore plus loin. Et moi, j'ai découvert la science-fiction à travers Maxime. Je n'étais pas spécialement fan de science-fiction avant. Et quand on était fiancés, une des premières choses qu'on a faites, c'est se regarder l'intégralité des épisodes de Star Wars. Et il m'a montré toute sa littérature sur le sujet. Et j'ai bien accroché sur le style. Alors, je me permets ce matin de commencer la prédication par un petit conte de science-fiction de mon propre cru. Il était une fois, dans un futur bien lointain, un jeune homme nommé Seeker qui vivait sur la planète Mundus. Il aimait les vieilles histoires et passait son temps dans les bibliothèques holographiques. Si vous avez des questions de vocabulaire, adressez-vous à la jeune génération. Un jour, il fit une découverte effrayante. Sa planète était contaminée. En effet, dans les temps anciens, tombée dans l'oubli, une guerre avait eu lieu entre les puissances intergalactiques de Lux et celle de Tenebra. Dans cette guerre, Mundus, qui était une colonie de Lux, avait revêtu un enjeu stratégique. Pour prendre le pouvoir sur Mundus, les forces de Tenebra y avaient largué l'arme bioatomique la plus redoutable jamais construite. Les autorités de Mundus avaient réagi selon le plan de Tenebra. Voulant éviter un mouvement de panique parmi la population, elles minimisèrent l'effet de la bombe. Elles rendirent les forces de Lux responsable de la situation et réclamèrent des rechefs dans la foulée leur indépendance. Depuis, toute relation avec les forces de Lux était coupée et Tenebra, dans l'ombre, étendait son pouvoir sur la planète pour la détruire. Le temps avait passé. L'histoire était devenue une légende. La légende tombait peu à peu dans l'oubli. Les Mondiens, fiers de leur indépendance, niaient leur passé colonial et jusqu'à l'existence même des forces de Lux et de Tenebra. Mais leur planète restait toujours et à jamais contaminée. Une contamination bioatomique à laquelle personne ne voulait croire, mais qui affectait autant le minéral que le végétal, l'animal et bien sûr tous les humains. Chez les organismes vivants, ces dysfonctionnements revêtaient des formes multiples, toujours douloureuses et entraînant inévitablement une mort prématurée dans d'atroces souffrances. Mais les Mondiens avaient accepté ce dérèglement comme étant naturel. Il ne s'y opposait pas. Ayant découvert tout à coup ce savoir caché oublié, Seeker ne regarda plus sa planète et ses habitants du même œil. Plus il les observait, plus il voyait clairement les conséquences néfastes de l'infection bioatomique. Lorsque Seeker l'interrogea à ce sujet, Alio l'emmena dans sa communauté. De façon générale, les symptômes liés à l'infection se déclaraient dès la plus jeune enfance, s'aggravaient tout au long de la vie et terminaient par une mort malheureuse. Cela ne semblait pas être le cas de cette communauté où les gens guérissaient et même devenaient résistants à l'infection. Interrogé plus longuement, Alio expliqua qu'ils avaient tous reçu un puissant antidote contre l'infection bioatomique. Seeker était fou de joie. Il n'allait pas mourir dans d'abominables souffrances. Et il pouvait même guérir des symptômes douloureux qu'il avait déjà. Il demanda comment se procurer ce remède miracle. Et surtout, combien il coûterait. Il fut surpris d'apprendre que le remède était gratuit. En effet, les forces de Lux avaient repris contact avec Mundus et, constatant la situation désespérée, avaient élaboré un antidote dans leur laboratoire supratechnologique. Ils en avaient fait don gratuitement à tout mondien qui leur en faisait la demande. Seeker n'hésita pas. Dès lors, il fut rigoureux dans la prise quotidienne de l'antidote et, peu à peu, il sentit sa résistance à l'infection augmenter et même ses symptômes disparaître. Il était heureux. Il avait trouvé l'antidote. Ne pouvant garder ce remède pour lui, il se mit à en parler autour de lui, à sa famille, parce qu'il voulait leur éviter une mort atroce et les souffrances qu'il subissait, à ses amis, à ses collègues, à toutes les personnes à qui il pouvait parler. Mais beaucoup, beaucoup lui répondirent avec du scepticisme. Pourtant, Seeker ne se découragea pas. Il résolut de sauver un maximum de personnes. Alors, mon petit conte de science-fiction est terminé. Mais je dois vous dire une chose. Ceci n'est pas de la science-fiction. C'est déjà, depuis bien longtemps, la réalité. C'est une réalité qui n'a pas commencé dans un futur lointain. C'est une réalité qui a commencé dans un passé lointain et presque tombé dans l'oubli. Alors, voyons si vous avez bien suivi. Non ? La prédication de dimanche dernier. Ah ! Alors, pour faire la transposition de ma parabole de science-fiction, je pense que Jésus aurait aimé l'histoire. Je pense que lui aurait fait des paraboles de science-fiction aussi. Dans notre monde actuel, ceux qui ont bien écouté dimanche dernier, à votre avis, qu'est-ce que la force de Lux ou les forces de Lux dans le monde réel? C'est les gentils, hein, je précise, pour ceux qui... Non, pas d'idée. Comment ? La force de Lux n'est pas sur le planète. Elle vient d'ailleurs. C'est Dieu. C'est le royaume de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je cite Françoise qui était Jésus. Et alors, Ténébra. Comment ? Oui, j'ai entendu le royaume du mal. Et nommons-le, puisque nous le connaissons, Satan. Tout à fait. La domination du diable. Alors, je ne vais pas revenir sur la lutte entre le diable et Dieu. Nous avons vu ça dimanche dernier. le message est toujours en ligne. Ni sur la démonstration de la domination du mal sur notre terre. Cela aussi, c'était dans le message dimanche dernier. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les conséquences de la domination de Satan. Et alors là, forcément, la prochaine question que vous attendez tous, à quoi correspond la bombe bioatomique ? Comment ? Le péché. Tout à fait. Alors, le péché, pourquoi j'ai choisi une bombe bioatomique ? Parce que la bombe atomique affecte l'environnement et les êtres humains, et les bombes biologiques affectent tous les êtres vivants. Donc comme ça, c'était sûr, ça affecte tout. Le péché affecte tout. Et nous disons quelque chose d'intéressant à propos du péché dans la Bible. Le psalmiste écrit « Depuis ma naissance, je suis marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché était attaché à moi. » Et alors là, vous vous dites, comment est-ce que c'est possible ? On n'est même pas sûr qu'un embryon ait conscience de lui-même. Comment est-ce qu'il est capable de pécher ? Et là, je vous pointe le doigt sur une nuance du texte. Ils n'ont pas dit que j'ai péché dans le ventre de ma mère. Ils disent, le péché est attaché à moi. Et là, nous nous retrouvons dans un scénario de virus. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui naissent avec le virus du sida ? Oui. Pourtant, ils ne peuvent pas être contaminés par quelqu'un d'autre. Ils ont été dans le ventre de leur mère. Comment est-ce possible ? C'est parce que leur mère est porteuse du sida qu'elle le transmet à ses enfants. Eh bien, le péché, c'est pareil. Le péché, c'est viral. Ça nous colle. Vous avez peut-être aussi entendu qu'on peut être porteur du virus VIH, qui est responsable du sida, sans en développer les symptômes. Tout à fait. Il arrive que des personnes ne développent jamais la maladie et ils sont qualifiés de porteurs sains. Alors là, je clarifie, hein, on dit sain en bonne santé. Pas saint, personne sanctifiée. Hein. On fait bien la nuance. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Avec le virus du péché, il n'y a pas de porteur saint. Le porteur saint pour le péché reste un cas d'école. Tôt ou tard, le virus du péché se développe dans l'être humain et devient actif. Et notre infection bioatomique, elle entraînait à la fin la mort. Et c'est la finalité aussi du péché. Je ne parle pas seulement d'une mort physique qui en découle aussi. Nous n'étions pas destinés à mourir sur cette terre. Mais je parle aussi d'une mort spirituelle. Une mort qui aura lieu après notre mort. Compliqué. Alors pour ça, je vous invite à lire dans Jacques, hein, les versets 14 à 15. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Vous vous rappelez, le psalmiste appelait ça le péché, la marque du péché qui nous séduit, qui nous attire. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Et Paul ajoute dans la lettre aux Romains, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes. Et il dit une phrase qui est comme une sentence, parce que tous ont péché. Alors, certains, quand on parle de péché, ont du mal à cerner de quoi on parle. C'est un terme qu'on rencontre dans nos églises, n'est-ce pas ? Quand on lit la Bible. Alors, Jeanne, est-ce que vous avez entendu un de vos profs de collège vous parler d'échecs? Non. D'accord. Les moins jeunes, est-ce que vous avez entendu vos collègues vous parler de péchés?
Des petits péchés.
Des petits péchés. Péchés mignons. Ah, chez les adultes, vous voyez, on entend... Mais plus les péchés mignons. Le péché tout seul, ça fait peur. Est-ce que les infos nous parlent de péchés?
Non.
Non. Est-ce que la radio nous parle de péchés? Non. Ça peut arriver? France Culture? Ah, Radio Fidélité, oui.
Non, 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 je peux te dire.
Oui.
C'est comment? Fillon.
Ah.
Ah. Sur Radio Fidélité.
Ah.
Donc il a parlé de la dette.
Ah tiens, ça c'est une citation que je rechercherai.
Nous avons tous péché.
Bien. Mais si je devais vous demander la définition du péché, ce serait peut-être dur. Pour certains, une petite mise au point, je pense, s'impose quand même. Et dans Galates 5, versets 19 à 21, c'est assez clair. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Donc ça veut dire tout le monde voit bien ce que produit un homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles. Jusqu'à présent, vous aviez dit l'immoralité, c'est pas pour moi. Les pratiques dégradantes, non, quand même pas. La débauche, non. L'idolâtrie, non. La haine, non, pas jusqu'à la haine. Les querelles, la jalousie, les accès de colère. Les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie. Bon, l'ivrognerie, un réveillon bien arrosé, ça passe quand même. Les orgies, c'est plus de notre époque, et autre chose de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part dans le royaume de Dieu. Et là, je reboucle avec dimanche dernier. Bien. Moi, il y a au moins 5 choses là-dedans où je me dis... Oui. Mais j'ai souvent entendu des gens dire des choses comme « Mais Karen, moi, tu vois, je fais du bien aux gens. Je suis gentille. Je fais des efforts. Tu vois, lui, il est méchant, mais moi, je suis gentille avec lui quand même. » Quand j'entends ça, ça me fait penser à une personne qui revient de chez le médecin. Elle a appris qu'elle souffre d'une forme létale de leucémie. Et en entrant à la maison, elle est toute contente. « Je suis en pleine forme, mes poumons fonctionnent à merveille. » La leucémie est un cancer du sang. Tes beaux poumons, ça va pas te sauver. De la même façon, on peut répondre « Oui, tu es quelqu'un de bien, mais tu as quand même un problème. Tu ne fais, tu ne dis ou ne penses pas toujours quelque chose de bien. Ça arrive qu'on pense des choses qui sont moins bien. » Le moins bien, c'est déjà une forme relative du mal, en fait. Hein. D'accord. Et c'est pourquoi tout un chacun de nous est concerné par le péché. Faire le bien, mes amis, ça ne suffit pas pour être sauvé. Et ces gens-là qui me disent « Mais Karen, moi je fais le bien. » Je vais être sauvée. Alors que je viens de leur expliquer par A plus B qu'ils ont besoin du salut. Qui sont pécheurs. De cela, Jésus dit, pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous vous ne comprendrez pas.
Pardon ?
Ça s'applique aussi à notre pasteur, aujourd'hui. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne, et qu'ils ne se tournent vers moi, et que je les guérisse. Quand j'entends ça, Jésus cite les paroles du prophète Ésaïe. Quand j'entends ça, mes amis, je vois la société française. Elle est devenue insensible. Une société laïque qui a peur de voir Dieu, qui se bouche les oreilles, qui se met les mains devant les yeux. Une société de mondiens. Peut-être que tu te dis, bon, Karen, tu ne m'as pas convaincue, moi je suis encore quelqu'un de bien. Sois honnête avec toi-même. N'as-tu jamais pensé, dit ou fait quelque chose de mal? Et si tu me réponds, non, pas moi, il vaut peut-être mieux que tu poses la question à tes parents, ou à tes frères, ou à tes sœurs. Tu obtiendras une réponse honnête. Moi, j'ai péché. Et je le fais encore. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et là, vous dites, ouf, enfin ! Je suis en voie de guérison. Et je suis sortie de la phase létale. Après avoir vu l'infection par le péché, j'aimerais vous parler maintenant de l'antidote. Et là, en Romains 5, on peut lire. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam. Pourquoi, Karine, tu me parles d'Adam maintenant ? Une idée ? Pourquoi Adam ? Oui, il n'y a que les jeunes qui suivent, vas-y. Yes, t'as tout suivi. C'est ça ma bombe bioatomique. C'est le péché est arrivé par... D'ailleurs, c'est intéressant, hein ? Ils disent Adam ici. Qui a croqué en premier le fruit ? Ève. Qui emporte la responsabilité ? Adam. Non. Ici, c'est Adam. Bon, je continue pour soulager ces messieurs. Donc, mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, comment s'appelle-t-il ? Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Alors, de cet homme, de ce remède, de cet antidote au péché, le même prophète que tout à l'heure, Ésaïe, parlait. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendit sur ceux qui étaient habités dans le pays, dominés par d'épaisses ténèbres. Car pour nous, un enfant est né. Pour nous, un fils est donné. Et là, vous voyez tout l'imaginaire que j'ai construit à partir de ça. Et Jean, dans Jean, on peut lire, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et la vie éternelle. » Je vous ai parlé tout à l'heure d'une mort éternelle. Là, en Jésus, nous avons la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, c'est un sujet de prédication à lui tout seul. Mais si vous voulez en avoir une petite idée, je vous conseille de faire un tour dans le livre de l'Apocalypse, parce qu'il y a des magnifiques chapitres sur ce qui nous attend dans la vie éternelle. Jésus lui-même dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il ajoute, et ça j'aime bien Jésus, crois-tu cela? Si vous croyez cela, vous avez l'antidote. Si tu te dis, je suis pas sûre, je sais pas, viens me voir après le culte, on en rediscute. Tu me diras peut-être, très bien, je crois que Jésus est mort à la croix pour me sauver, pour payer pour mes péchés. Mais en clair, qu'est-ce que ça change pour moi? Eh bien, j'ai envie de te répondre. Ben, tout. Paul dit dans Galates 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça change tout. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Et là, moi j'ai du mal, je ne sais pas comment vous êtes, mais quand j'entends Christ vit en moi, j'entends surtout, Karen, t'as pas ton mot à dire. Et ça, j'aime pas. Je n'aime pas me faire commander, comme disent les enfants. André non plus, il n'aime pas. Quand il rentre de l'école, il me dit « Oh, c'était pas bien, il y a un tel pendant la récréation, il a encore commandé tout le temps. » Mais je vous rassure, mes amis, il ne s'agit pas de cela ici. C'est une relation plutôt autre. Et pour rester dans les images de biologie, et comme nous avons parlé de virus tout à l'heure, je vous propose l'image de la symbiose. Alors, symbiose, c'est un mot compliqué. On connaît plus les relations de symbiose, et c'est ce vers quoi je vais tendre ici. Alors, la symbiose, c'est l'association intime et durable entre deux organismes vivants qui profitent de la présence l'un de l'autre. Et là, tout de suite, vous me dites, mais c'est le mariage. Aussi. Aussi. Alors, si le concept peut faire peur d'avoir un être qui vit en nous pour notre bien, n'est-ce pas, un être que nous ne contrôlons pas, mais qui pourrait nous contrôler, alors je peux vous rassurer, vous êtes déjà, vous vivez déjà en multiples symbioses, n'est-ce pas? Peut-être même à votre insu, mais vous vous portez à merveille grâce aux quelques milliers de bactéries qui vivent dans votre intestin et qui ne sont pas négligeables puisqu'ils constituent à peu près 1 kg de votre masse corporelle. Ouais, quand même. Quand même. Donc elles ont un rôle favorable dans la digestion, dans la régulation du système immunitaire et c'est ça qui m'intéresse. Elles empêchent la colonisation par les organismes pathogènes. Oh, oh. Voilà. Donc, la relation symbiotique, mes amis, avec Jésus, moi j'y crois. Alors, vous me direz, tu m'as parlé d'un bénéfice mutuel. Ha. En général, c'est tout à la fin des contrats, quand ça commence à être écrit en tout petit, on n'aime pas. On a vu tous les bénéfices, n'est-ce pas? Et maintenant, on va passer au bénéfice pour l'autre. Quel bénéfice Jésus pourrait tirer de la vie en symbiose avec nous? Quel bénéfice Jésus pourrait tirer de la vie en symbiose avec nous?
Être ensemble avec ceux qui l'aiment pour l'éternité.
Merci.
Se rendre visible.
La propagation de l'antidote. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi Dieu a donné son Fils unique? Parce qu'il a tant. Est-ce que l'amour n'est pas un puissant moteur pour cette action de symbiose? Le plus puissant? Et là, vous me dites, mais Karen, la symbiose, c'est mignon. Mais, en clair, ça se passe comment? Parce que Jésus, bon, il est Dieu, mais il est humain. Moi, je suis humain, et comment il fait pour rentrer? Alors, Jésus vient habiter en nous par son esprit. Tout à l'heure, je vous ai listé des effets du péché, les symptômes du péché. Alors, maintenant, je vais vous citer les symptômes de la symbiose avec Jésus par l'esprit. Vous la retrouvez dans Galates 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié, donc ont tué, d'accord, l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Et on a vu que cela a été engendré par le péché. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi agir dans notre conduite. En clair, si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de mal à avoir de l'amabilité, de la bonté, de la patience, surtout si vous avez des enfants comme les miens. Bref, bref, voilà. Et du coup, il y a des fois où je dis, ok, Saint-Esprit, là, il va falloir que tu prennes entièrement les rênes, parce que sinon... Bref. Laissons le Saint-Esprit agir dans notre corps. Alors, nous avons vu l'infection, nous avons vu l'antidote. Nous allons passer à la troisième partie. Mon fils André a une passion dans la vie. Il adore... Non, il aime beaucoup. On peut pas dire ça dans son église. Il aime beaucoup jouer au chevalier. Alors, vous savez tous pourquoi? Parce que le chevalier sauve la princesse. Lorsqu'on est enfant, on a naturellement envie d'être un héros. Une héroïne, pour les filles, n'est-ce pas? Alors, moi, je voulais être mousquetaire. Est-ce qu'il y a, par exemple, des gens ici qui voulaient devenir chevalier comme André? Non? Pas de chevalier? Plutôt pompier? Pompier? Médecin? Zorro? Zorro? Superman? Lorsqu'on est enfant, on veut être un héros, et pas n'importe lequel. Un héros qui sauve vraiment les gens. Et je peux vous dire que j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Mais je ne suis pas mousquetaire. Je fais partie d'un commando de force spéciale. Et j'ai une mission, et pas des moindres. Je dois sauver non seulement des vies, je dois sauver le monde. Et cette mission, Jésus nous l'a donnée à tous. Vous pouvez donc devenir des super-héros. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Dimanche dernier, Françoise nous a parlé du rôle que chacun de nous doit jouer dans la bataille pour le royaume de Dieu. Elle a parlé de la reine, du roi, du fou, du pion, etc. Nous avons tous des rôles différents selon les dons que nous donne Dieu. Mais nous avons tous un rôle identique. Et ce n'est pas le moindre. Alors, je vous laisse le découvrir, toujours dans les paroles de Paul, dans 2 Corinthiens 5. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Dépositaire, ça veut dire ceux qui possèdent et qui transmettent. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Waouh! Ambassadeur, quelle confiance! Paul témoigne cela au roi Agrippa lorsqu'il se trouve devant lui et dit, dans son témoignage que Jésus lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu des peuples juifs et païens vers lesquels je t'ai envoyé. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière du pouvoir de Satan, à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. » Waouh! Là, je me dis parfois, t'es sûre que tu veux me faire ambassadrice? Je me sens pas trop les épaules pour l'uniforme, là. Mais je ne suis pas seule dans la bataille. Tout à l'heure, on a entendu l'envoi en mission que nous a laissé Jésus. Et il ajoute, « Voici, je suis moi-même chaque jour avec vous, jusqu'à la fin du monde. » Et dans le livre des Actes, tout au début, juste avant de monter au ciel, ce qu'il dit, en général, juste avant de monter au ciel, on dit quelque chose d'important. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Certains disent « je suis trop jeune ». Moi, j'ai vu des familles entières venir à l'église et venir à Christ parce qu'un de leurs enfants a été au petit flambeau. Donc, ils avaient un âge primaire. Alors, si un enfant du primaire peut le faire, courage, vous y arriverez. Peut-être que tu es comme moi et que tu as peur de ne pas dire les bonnes choses au bon moment. Alors, le Saint-Esprit te mettra les paroles dans ta bouche. Et là, laissez-le agir dans votre conduite. Ne cherchez pas à contrôler la situation. Donnez le contrôle à Dieu. À qui témoigner? Lorsque le démoniaque a été délivré, Jésus lui a dit à qui témoigner. Il lui dit, va, rentre chez toi, auprès des tiens. Et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Les premières personnes à qui nous devons témoigner, c'est notre famille, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Et là, le Seigneur ne lui a pas donné la mission la plus facile. Mais Pierre ajoute, si l'on vous demande des explications au sujet de votre espérance, soyez toujours prêt à la justifier courtoisement, dans le calme, avec modestie et respect. Vous vous souvenez de Seeker? Il voulait sauver un maximum de gens. Et il aurait eu besoin d'une arme secrète. Nous avons une arme secrète. Jésus dit, oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Demander quelque chose au nom de quelqu'un d'autre, on ne peut pas le faire n'importe comment. Si je demande à Dieu de m'offrir, si j'étais Maxime, je dirais une Ferrari, mais je ne suis pas Maxime. Je sais pas. Mais si vous priez pour avoir une Ferrari, il est peu de chances que Dieu vous l'accorde, même si vous la demandiez au nom de Jésus. Si on demande quelque chose au nom de Jésus, ça veut dire qu'on est sûr que Jésus est d'accord avec nous. Est-ce que vous croyez que Jésus est d'accord pour sauver un maximum de gens? Est-ce que vous croyez que Jésus est d'accord pour sauver tous les membres de votre famille? Pour sauver vos amis? Pour sauver vos voisins? Pour sauver vos collègues? Oui? Alors demandez-le en son nom. Est-ce que vous avez tous une main? Bien. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à être fidèle dans la prière. Il y a 5 personnes pour lesquelles je voudrais prier. Prier au nom du Christ et pas juste aujourd'hui. Fidèlement. Pour qu'un jour l'Esprit les touche et qu'ils s'ouvrent au Seigneur. Je vous propose de vous laisser 2 minutes. Prenez votre main. Associez une personne à chaque doigt. Si vous n'avez pas cette personne pour qui vous voulez prier, c'est dommage. Je peux vous donner mes amis. Je commence par 5. Mettez les personnes qui vous sont vraiment le plus à cœur, celles que vous voulez qui soient vraiment à 100% avec vous. Et la prochaine fois que vous regardez votre main, regardez vos doigts et priez pour ces gens. La main, on l'a toujours avec soi. Les gens, on ne les voit pas toujours. On oublie. Mais si vous associez vraiment un doigt à chaque personne. Oui, vous pouvez prendre les 2 mains si vous voulez. Et les doigts de pied. Mais faites-le vraiment. Je vous laisse du temps pour prier pour elle. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez. Et vous recevrez pour que votre joie soit complète. J'aimerais conclure. Va. Et que la foi soit avec toi. Et pour conclure par une bénédiction, live long and prosper dans la présence de Dieu.